Solo plume. Courte et nouvelle, voici Solo plume, un texte, un conte, une nouvelle, juste pour le plaisir. Avec Frédéric Bruyas.
Ce fut vraiment une singulière assemblée que celle qui se tint sur le rivage. Les oiseaux laissaient traîner lamentablement leurs plumes. Les mammifères avaient la fourrure collée au corps et tous étaient trempés, mal à l'aise et de maussade humeur. La première question abordée concerna, bien entendu, la façon de se sécher. Chacun donna son avis à ce sujet et, au bout de quelques minutes, il paraissait tout naturel à Alice de bavarder familièrement avec ses nouveaux compagnons comme si elle les eût depuis toujours connus. À dire vrai, elle eut une assez longue discussion avec le Lori qui finit par prendre un air boudeur et par déclarer assez sottement « Je suis plus vieux que vous. Je dois mieux que vous savoir ce qu'il faut faire. » Ce qu'Alice ne voulut pas admettre sans connaître son âge exact. Et comme le Lori refusait catégoriquement de le dire, la discussion tourna court. Finalement, la souris, qui semblait avoir un certain ascendant sur les autres animaux, ordonna d'une voix forte.
« Asseyez-vous, vous tous, et écoutez-moi. J'aurai tôt fait de vous faire suffisamment sécher. »
Tout le monde aussitôt s'assit en formant un large cercle au centre duquel se trouva la souris. Alice fixait sur elle un regard inquiet, car elle se rendait compte qu'elle allait attraper un bon rhume si elle ne se séchait pas au plus vite. « fit la souris en prenant un air important.
« Êtes-vous prêts? Voici l'histoire la plus aride, la plus propre à vous faire sécher sur pied que je connaisse. Silence à la ronde, je vous prie. Guillaume le Conquérant, dont la cause bénéficiait de la faveur du pape, reçut bientôt la soumission des Anglais, qui avaient besoin de chefs et qui, depuis quelque temps, s'étaient accoutumés à l'usurpation et à la conquête. » Edwin et Morcar, comtes de Mercy et de Northumbrie, brrr, fit en frissonnant le Lori. Je vous demande pardon, dit la souris très poliment, mais en fronçant le sourcil. Avez-vous dit quelque chose?
Ce n'est pas moi, se hâta d'affirmer le Lori.
J'avais cru entendre parler, reprit la souris. Bon, je continue. Edwin et Morcar, comtes de Mercy et de Northumbrie, se rallièrent à son parti. Et l'archevêque patriote de Canterbury, Stigand, lui-même, trouvant cela opportun...
« Trouvant quoi ?» demanda le canard.
« Trouvant cela !»
répondit sans chercher à cacher sa contrariété, la souris.
« Bien sûr, vous savez ce que « cela » veut dire !»
« Je sais assez bien ce que cela veut dire quand c'est moi qui trouve quelque chose, » dit le canard. « C'est en général une grenouille ou un ver. La question est de savoir ce que trouva l'archevêque. »
Sans prêter aucune attention à l'intervention du canard, la souris se hâta de poursuivre.
Trouvant cela opportun, se porta avec Edgar Atling à la rencontre de Guillaume pour offrir la couronne à ce dernier. Guillaume se conduisit d'abord avec modération, mais l'insolence de ces Normands...
« Comment vous sentez-vous maintenant, ma petite ?» demanda-t-elle en se tournant vers Alice.
« Plus mouillée que jamais, » répondit d'une voix mélancolique Alice. « Ton histoire ne semble pas m'avoir fait sécher le moins du monde. »
« Dans ce cas... » dit en se redressant d'un air solennel le dodo, « je propose l'ajournement de l'Assemblée, en vue de l'adoption immédiate de remèdes plus énergiques. »
« Parlez plus clairement, » dit l'aiglon. « Je n'entends goutte à tous vos grands mots, et en outre je crois que vous n'y entendez goutte vous-même. »
Et l'aiglon baissa la tête
pour dissimuler un sourire. Quelques-uns des autres oiseaux firent entendre un petit gloussement. « Ce que j'allais dire, poursuivi d'un ton offensé le dodo, c'est que le mieux pour nous sécher, ce serait de faire une course à la Comitarde. »
Est-ce donc une course à la Comitarde ? Demanda Alice. Non pas qu'elle se souciât beaucoup de le savoir, mais le dodo s'était interrompu comme s'il eût pensé que quelqu'un devait prendre la parole. Et nul autre des assistants ne semblait disposé à dire quoi que ce soit.
« Ma foi, » répondit le dodo, « la meilleure façon d'expliquer en quoi consiste cette course, c'est de la faire. »
Et comme vous pourriez avoir envie, par quelques jours d'hiver, de vous y essayer vous-même, je vais vous dire comment s'y prit le dodo.
Tout d'abord, il délimita une piste de course vaguement circulaire.
La forme exacte, dit-il, importe peu. Ensuite, tous les assistants furent éparpillés ça et là, le long de la piste. Il n'y eut pas l'habituel signal 1, 2, 3, partez.
Les participants se mirent à courir quand bon leur sembla et abandonnèrent la course au gré de leur fantaisie, de sorte qu'il n'eût pas été facile de savoir à quel moment elle prit fin. Néanmoins, lorsqu'ils eurent couru pendant une demi-heure environ et qu'ils furent de nouveau tout à fait secs, le dodo proclama soudain
« La course est terminée !»
Et ils se pressèrent tous, tout essoufflés, autour de lui pour demander
« Mais qui a gagné ?»
À cette question, le dodo ne pouvait répondre avant d'avoir mûrement réfléchi et il se tint pendant un assez long temps quoi ? Un doigt sur le front ? Pose dans laquelle on voit d'ordinaire Shakespeare sur les tableaux qui le représentent, tandis que les autres attendaient en silence. Enfin, le dodo déclara
« Tout le monde a gagné et tous nous devons recevoir des prix !»«
Mais qui va donner ces prix ?»
demandèrent en chœur les assistants.
« Parbleu, c'est elle, naturellement !» dit le dodo en désignant du doigt Alice.
Et aussitôt, tous les assistants se pressèrent autour de la fillette en réclamant dans la plus grande confusion
« Des prix ! Des prix !»
Alice n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire. En désespoir de cause, elle mit la main à sa poche et en tira une boîte de dragées, où, par chance, l'eau salée n'avait pas pénétré. Elle distribua ses dragées à la ronde en guise de prix. Il y en avait 13 exactement, une pour chacun des participants.
« Mais il faut qu'elle ait un prix, elle aussi !» dit la souris.
« Bien sûr !» approuva d'une voix grave le dodo. « Qu'avez-vous d'autre dans votre poche »
poursuivit-il en se tournant vers Alice.
« Rien qu'un dé à coudre, hein ?»
répondit-elle tristement.
« Passez-le-moi !» ordonna le dodo.
On se pressa de rechef autour d'elle, tandis que le dodo lui tendait solennellement le dé à coudre en disant
« Nous vous prions de vouloir bien accepter cet élégant dé à coudre. »
Et quand il eut achevé cette courte allocution, tous les autres applaudirent. Alice jugea ces simagrées fort absurdes, mais ils avaient tous l'air si graves qu'elle n'osa pas en rire. Et ne trouvant rien à répondre, elle se contenta de s'incliner, de saisir le dé à coudre et de prendre un air aussi solennel que possible. Il fallait maintenant manger les dragées, ce qui n'alla pas sans provoquer quelques bruits et quelques désordres. Les grands oiseaux se plaignant de ne pouvoir apprécier le goût des leurs, et les petits s'étranglant et devant se faire donner des tapes dans le dos. Néanmoins, tout finit par s'arranger, et les assistants se rassirent en cercle et prièrent la souris de prononcer encore quelques mots.
« Tu m'avais promis, hein ? T'en souviens-t-il ? » dit Alice. De me raconter ton histoire et de me dire pourquoi tu hais les... ajouta-t-elle à voix basse, craignant presque de l'offenser de nouveau.
C'est que c'est long et triste !»
dit la souris en se tournant vers Alice et en exhalant un soupir.
« Vos queues, à vous autres souris, sont longues, sans doute !» dit Alice en abaissant avec étonnement son regard vers l'appendice caudal de son interlocutrice.
« Mais pourquoi dire qu'elles sont tristes ?»
Et elle continua de se creuser la tête à ce propos, tandis que la souris parlait, si bien que l'idée qu'elle se fit de l'histoire ressembla à ce qui suit.
Furie dit à une souris qui l'avait surprise au logis « Je te dresse procès-verbal, suis-moi donc jusqu'au tribunal. Inutile de discuter, il faut que ce procès ait lieu, car ce matin, en vérité, je n'ai à faire rien de mieux. »
La souris répond au roquet. « Mon cher monsieur, un tel procès, sans jury et sans juge, serait irrégulier.
Moi, je serai le juge et aussi le jury, » dit le rusé Furry.
« Je réglerai ton sort par ce verdict. »
La mort.
« Vous ne m'écoutez pas !»
reprocha à Alice la souris d'un ton de voix sévère.
« À quoi pensez-vous donc ?»«
Je te demande pardon, » dit d'un air contrit Alice. « Tu en étais arrivée, je crois, à la cinquième courbe. »«
Hein ? Ne ?»
articula d'un ton sec la souris, furieuse.
« Un nœud ?» dit Alice, toujours prête à rendre service et jetant autour d'elle des regards scrutateurs. «
Oh, laisse-moi t'aider à le défaire !»«
Jamais de la vie !»
s'écria la souris en se levant et en s'éloignant de la petite fille.
« Vous m'insultez en débitant de pareilles sottises !»«
Telle n'était pas mon intention !» protesta Alice.
« Mais tu es, vois-tu, si susceptible hein !»
Pour toute réponse, la souris émit un chicotement.
« Je t'en prie, reviens ! Reviens finir ton histoire !» lui cria Alice.
Et les autres s'exclamèrent en chœur.
« Oh oui ! Reviens !»
Mais la souris ne fit que hocher rageusement la tête et presser le pas.
Dommage qu'elle n'ait pas voulu rester avec nous.
Soupira le lori de qu'elle fut hors de vue. Et une vieille mère crabe crut devoir profiter de l'occasion pour dire à sa fille « Ah, ma chérie, que ceci te serve de leçon. Ne perds jamais ton sang-froid. »
« Silence, maman, »
répondit la jeune pinceuse, non sans quelque hargne. « Tu ferais perdre patience à une huître. »
« Je voudrais bien que notre Dina soit ici, vraiment je le voudrais bien hein !» dit à haute voix sans s'adresser à personne en particulier, Alice.
« Elle aurait vite fait de nous la ramener !»«
Et qui donc est Dina ?»«
Si je peux me permettre de vous poser la question !» demanda le lori. Alice, toujours disposée à parler de sa favorite, répondit avec empressement.
« Dina, c'est notre chatte !» Elle n'a pas sa pareille. Ah, je vous l'affirme, pour la capture des souris. Et oh, j'aimerais que vous la voyiez faire la chasse aux oiseaux. Oh oui, elle vous dévore un petit oiseau en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire.
Ces paroles firent sur l'assemblée une impression tout à fait remarquable. Quelques-uns des oiseaux décampèrent sans plus attendre. Une vieille pie se mit à s'emmitoufler très soigneusement dans son plumage en remarquant
« Il faut vraiment que je rentre à la maison. L'air de la nuit est mauvais pour ma gorge. »
Et un canari rappela ses enfants d'une voix tremblotante.
« Venez vite, mes chéris, il est grand temps pour vous d'aller au lit !»
Sous divers prétextes, ils s'éclipsèrent tous, et Alice bientôt resta seule.
« Je n'aurais pas dû parler de Dina, » se dit-elle mélancoliquement. « Nul, en ces lieux-ci, ne semble l'aimer, et pourtant, je suis sûre que c'est la meilleure chatte du monde. Oh, ma Dina chérie !» Je me demande si je te reverrai jamais. »
Et à ces mots, la pauvre Alice se remit à pleurer, car elle se sentait très seule et très découragée. Au bout d'un court moment, cependant, elle entendit de nouveau au loin un bruit de petits pas précipités qui lui fit lever vivement les yeux en presque souhaitant que la souris eût changé d'avis et qu'elle revînt terminer son histoire. C'était le lapin blanc. Il revenait au petit trot en jetant autour de lui des regards inquiets comme s'il eût perdu quelque chose. Et Alice l'entendit marmonner.
« La duchesse ! La duchesse ! Oh, mes pauvres petites pattes ! Oh, ma fourrure et mes moustaches ! Elle va me faire exécuter, aussi sûr qu'un furet est un furet ! Où ai-je bien pu les laisser tomber ? Oh, je me le demande !»
Alice devina tout de suite qu'il cherchait son éventail et sa paire de gants de chevreau blanc et, n'écoutant que son bon cœur, elle se mit en devoir de les chercher, elle aussi, mais ils n'étaient visibles nulle part. Tout paraissait avoir changé depuis son bain forcé dans la mare. Et la grande salle où se trouvait la table de verre et la petite porte avaient complètement disparu. Au bout d'un très court instant, le lapin aperçut Alice qui poursuivait sa quête et il l'interpella d'une voix courroucée.
« Eh bien, Marie-Anne, qu'est-ce que vous faites là ? Courez tout de suite à la maison et rapportez-moi une paire de gants et un éventail. Allez, vite !»
Alice eut si peur qu'elle partit aussitôt à toutes jambes dans la direction qu'il avait indiquée, sans tenter de lui expliquer l'erreur par lui commise.
« Il m'a prise pour sa servante, » se disait-elle tout en courant. « Quel va être son étonnement lorsqu'il saura qui je suis ? Mais il vaut mieux que je lui rapporte son éventail et ses gants, si, du moins, je peux les trouver. »
Comme elle prononçait ces mots, elle arriva tout à coup devant une coquette petite maison sur la porte de laquelle une étincelante plaque de cuivre portait, gravée, la désignation de l'habitant. J. Lapin. Elle entra sans frapper et gravit 4 à 4 l'escalier, redoutant d'y rencontrer la vraie Marianne et de se voir chassée de la demeure avant d'y avoir trouvé l'éventail et les gants.
Comme cela semble bizarre, hein ? Se dit Alice, d'aller faire des commissions pour un lapin. Je m'attends à bientôt voir Dina m'envoyer faire ses courses.
Et elle se mit à imaginer comment les choses se passeraient en l'occurrence.
Mademoiselle Alice, venez tout de suite vous apprêter pour la promenade.
J'arrive dans une minute, nounou. Mais jusqu'au retour de Dina, il me faut surveiller ce trou de souris pour empêcher la souris d'en sortir.
Seulement, poursuivit Alice, « je ne pense pas que l'on garderait Dina à la maison si elle se mettait à donner aux gens des ordres comme cela. »
Cependant, elle était arrivée dans une petite chambre proprette, devant la fenêtre de laquelle on voyait une table. Et sur cette table, comme elle l'avait espéré, un éventail et 2 ou 3 paires de minuscules gants de chevreau blanc. Elle prit l'éventail et l'une des paires de gants, et elle s'apprêtait à quitter la pièce quand son regard tomba sur un petit flacon qui se trouvait à côté du miroir.
Il n'y avait pas, cette fois, sur le flacon d'étiquette portant les mots « bois-moi ». Mais néanmoins, elle le déboucha et le porta à ses lèvres.
« Je sais, se dit-elle, que quelque chose d'intéressant se produit à coup sûr dès que je mange ou bois quoi que ce soit. Je vais donc tout simplement me rendre compte de l'effet du contenu de ce flacon.
Je souhaite qu'il me fasse grandir de nouveau, car vraiment j'en ai assez d'être, comme je le suis présentement, une créature minuscule. »
Ce fut bien là ce qui se produisit, et beaucoup plus tôt qu'elle ne s'y attendait. Avant d'avoir absorbé la moitié du contenu du flacon, elle constata que sa tête se trouvait pressée contre le plafond, et elle dut ployer l'échine pour éviter de se rompre le cou. Elle reposa précipitamment le flacon en se disant
« Ah, cela suffit comme ça. J'espère que je ne vais pas grandir davantage. D'ores et déjà, je ne peux plus passer par la porte. Certes, j'aurais mieux fait de n'en pas boire tant. »
Hélas, les regrets étaient désormais superflus. Elle continuait de grandir tant et si bien qu'elle dut s'agenouiller sur le plancher. Un instant plus tard, elle n'avait même plus assez de place pour y demeurer à genoux et elle s'efforçait de se coucher un coude contre la porte et l'autre bras replié sur la tête. Elle n'en continuait pas moins de grandir. Enfin, dans une suprême tentative d'accommodation, elle passa un bras par la fenêtre et engagea l'un de ses pieds dans la cheminée. Puis elle se dit « À présent, je n'en saurais faire davantage quoi qu'il arrive. Que vais-je devenir ?»
Heureusement pour Alice, le petit flacon magique avait maintenant produit tout son effet et elle cessa de grandir. Pourtant, sa position n'était rien moins que confortable et, comme il ne semblait pas qu'il y eût pour elle la moindre chance de jamais ressortir de la pièce, il n'est pas surprenant qu'elle se trouvât très malheureuse.
« C'était tout de même, » pensa la pauvre Alice, « bien plus agréable à la maison. Alors, on n'était pas toujours en train de grandir ou de rapetisser et d'entendre des souris et des lapins vous donner des ordres. » Je ne suis pas loin de souhaiter n'être jamais descendue dans ce terrier de lapin. Et pourtant, c'est assez curieux, voyez-vous, ce genre de vie que l'on mène ici. Je me demande ce qu'il a bien pu m'advenir. Quand je lisais des contes de fées, je m'imaginais que des aventures de ce genre n'arrivaient jamais. Et maintenant, voici que je suis en train d'en vivre une. On devrait écrire un livre sur moi, hein. Ah oui, on le devrait. Et quand je serai grande, j'en écrirai un moi-même. « Mais je suis grande dès à présent, » ajouta-t-elle d'une voix chagrine. « En tout cas, je n'ai pas ici la place nécessaire pour grandir davantage. »
« Mais alors, » pensa Alice, « ne deviendrai-je jamais plus âgée que je ne le suis actuellement ? Ce serait une consolation, hein, en un sens, que de ne jamais devenir une vieille femme, mais aussi toujours devoir apprendre des leçons à... « Je n'aimerais sûrement pas cela. »«
Oh, ma pauvre Alice, que tu es donc bête !» se répondit-elle.
« Comment pourrais-tu ici apprendre des leçons ? Voyons, il y a à peine assez de place pour toi-même, et pas la moindre place pour un quelconque livre de classe. » Et elle poursuivait son bavardage, prenant à tour de rôle en considération le pour et le contre, et entretenant ainsi une vraie conversation. Lorsqu'au bout de quelques minutes, elle entendit une voix au dehors et s'arrêta de penser pour l'écouter.
Marianne, disait la voix, apportez-moi mes gants immédiatement. Puis on entendit dans l'escalier un bruit de petits pas précipités. Alice comprit que c'était le lapin qui venait voir ce qu'elle faisait. Et elle se mit à trembler au point d'ébranler la maison, oubliant tout à fait qu'elle était maintenant environ 1000 fois plus grande que le lapin et qu'elle n'avait aucune raison d'avoir peur de lui. À l'instant suivant, le lapin était devant la porte et il essayait de la faire pivoter sur ses gonds. Mais comme cette porte s'ouvrait vers l'intérieur et comme Alice en bloquait le battant avec son coude, sa tentative échoua. Alice l'entendit marmonner. « Puisqu'il en est ainsi, je vais faire le tour et entrer par la fenêtre. »«
Pour ça, tu peux toujours courir, hein ?»
pensa Alice. Après avoir attendu le moment où elle crut entendre le lapin arriver sous la fenêtre, elle allongea brusquement le bras et fit le geste d'attraper ce qui se trouvait à la portée de sa main. Elle ne saisit rien, mais elle entendit un petit cri perçant, suivi du bruit d'une chute et d'un fracas de verre brisé qui lui donnèrent à penser que, probablement, le lapin était tombé au milieu du châssis d'une couche à concombres.
De quelque chose de ce genre.
Ensuite, une voix courroucée, celle du lapin, s'éleva.
« Pat ! Pat ! Mais où êtes-vous ?»
Puis une voix qu'elle n'avait jamais encore entendue.
« Je suis là, pour sûr, en train de déterrer des pommes de Reinette, votre honneur. »«
En train de déterrer des pommes de Reinette, vraiment ?» s'exclama le lapin fort en colère. « Arrivez ici, venez m'aider à sortir de ce machin-là »
Nouveau fracas de verre brisé.
« À présent, dites-moi, Pat, que voit-on à cette fenêtre ?»«
Pour sûr, c'est un bras. »
Il prononça « bras, votre honneur. »
« Un bras, animal que vous êtes ! Qui a jamais vu un bras de cette dimension-là ? Cela remplit toute la fenêtre !»«
Pour sûr que ça la remplit, votre honneur, mais c'est un bras tout de même !»«
Eh bien, en tout état de cause, il n'a rien à faire là ! Allez, allez l'enlever !»
Il y eut ensuite un long silence, troublé seulement de temps à autre par quelques chuchotements indistincts.
« Pour sûr, hein ? Je n'aime pas ça, votre honneur, du tout, du tout !» Faites ce que je vous dis, espèce de poltron!
Finalement, Alice allongea de nouveau le bras et fit une nouvelle fois le geste de saisir ce qui pouvait être à la portée de sa main. Cette fois, on entendit deux petits cris et de rechef un fracas de verre brisé.
Combien
Ont-ils donc de châssis, de couches à concombre ? Se demanda-t-elle. Et que vont-ils entreprendre la prochaine fois ? Si c'est de me faire sortir par la fenêtre, je souhaite seulement qu'ils y réussissent. Je suis certaine pour ma part de n'avoir nulle envie de rester enfermée un seul instant de plus ici. Elle demeura quelque temps attentive, sans qu'aucun autre bruit ne parvint à ses oreilles. Enfin, elle entendit un grondement pareil à celui que produiraient de petites roues de charrette et le brouhaha d'un bon nombre de voix parlant toutes ensemble. Elle saisit quelques bribes de phrases.
« Où est l'autre échelle ?»« Voyons, je ne pouvais en apporter qu'une. »«
C'est Bill qui a l'autre. »« Bill, apportez-moi là, ici, mon garçon. »«
Dressez-les contre cette encoignure-ci. »
« Mais non, mettez-les d'abord bout à bout. Elles n'atteignent pas la moitié de la hauteur requise. Oh, cela ira comme ça, ne faites pas le difficile. Tenez, Bill, attrapez-moi cette corde. »
« Le toit va-t-il supporter la charge ?»«
Attention à cette ardoise qui s'est détachée. Oh, elle dégringole. Garde-sous !»
Grand fracas. « Voyons, mais enfin, qui a fait cela ?»«
C'est Bill, hein, je le parie. Qui va descendre dans la cheminée ?»
« Ah non, non, pas moi, hein. Ah, c'est vous qui descendrez, hein. Pour cela, ne comptez pas sur moi.
Ah, c'est à Bill d'y aller. Vous avez entendu Bill ? Le maître dit qu'il faut que vous descendiez dans la cheminée. »
Ainsi donc, se dit Alice, Bill va devoir, n'est-ce pas, descendre dans la cheminée.
Ma parole, c'est à croire que toutes les corvées sont réservées à ce malheureux Bill. Pour rien au monde, je ne voudrais être à la place de Bill. Cet âtre, certes, n'est pas bien large, mais je pense pouvoir décocher tout de même un bon petit coup de pied.
Elle retira son pied de la cheminée autant qu'elle le put, et elle resta sans bouger jusqu'au moment où elle entendit un petit animal. Elle ne put deviner à quelle espèce il appartenait, en train de s'agriffer juste au-dessus d'elle, aux parois du conduit. Alors, en se disant « Voici Bill. » Elle donna un violent coup de pied et prêta l'oreille afin de savoir ce qu'il allait se passer. Ce qu'elle entendit en premier lieu, ce furent plusieurs voix s'écriant en chœur.
« Voilà Bill qui s'envole !»
Puis la voix du lapin, seul. « Attrapez-le, mais vous, là-bas, à côté de la haie !»
Suivit un silence. Puis de rechef parvint aux oreilles d'Alice un bruit confus de voix.
« Soulevez-lui la tête !» Un peu d'eau de vie maintenant, mais ne l'étouffez pas! Comment cela s'est-il passé, mon vieux? Mais que vous est-il arrivé? Racontez-nous tout cela!
Enfin, s'éleva une petite voix, faible et suraiguë. C'est Bill, pensa Alice.
Ma parole, je ne sais pas. Cela suffit, merci. Je me sens mieux à présent. Mais je suis bien trop bouleversée pour pouvoir vous dire. Tout ce que je sais, c'est que quelque chose m'est arrivé dessus comme un diable qui sort d'une boîte. Je suis partie dans les airs comme une fusée.
C'est bien là ce que tu as fait, mon vieux ! Repartirent les autres.
Il va falloir incendier la maison, dit la voix du lapin.
Si jamais vous faites cela, je lance Dina à vos trousses ! S'écria Alice de toute la force de ses poumons.
Il s'établit instantanément un silence de mort. Et Alice se dit « Je me demande ce qu'ils vont m'indigancer encore. S'ils avaient pour deux sous de jugeote, ils enlèveraient le toit. »
Au bout d'une ou deux minutes, ils recommencèrent à s'agiter et Alice entendit le lapin dire « Une brouettée suffira pour commencer !»«
Une brouettée de quoi ?» se demanda Alice.
Mais elle n'eut pas à se le demander longtemps, car à l'instant suivant, une grêle de petits cailloux vint crépiter contre la fenêtre et quelques-uns de ces cailloux la frappèrent au visage.
« Je vais mettre le holà à ce petit jeu-là » se dit-elle tout en s'écriant.
« Vous feriez bien de ne pas recommencer !»
Ce qui provoqua de rechef un silence de mort.
Alice remarqua, non sans quelque surprise, que les cailloux, à l'instant où ils tombaient sur le plancher, se transformaient tous en petits gâteaux, et lui vint alors une idée lumineuse.
« Si je mange un de ces gâteaux, pensa-t-elle, il est certain que cela va me faire changer de taille, dans un sens ou dans l'autre. Et comme je n'ai pas la possibilité de devenir plus grande, cela doit me rendre plus petite, je suppose. » Elle avala donc l'un des gâteaux et fut ravie de constater qu'elle commençait tout de suite à rapetisser.
Dès qu'elle fut assez petite pour pouvoir passer par la porte, elle sortit de la maison en courant et vit qu'une véritable foule de petits animaux l'attendait au dehors. Le pauvre petit Bill, le lézard, se trouvait au milieu de l'attroupement, soutenu par deux cochons d'Inde qui lui faisaient boire d'un remède contenu dans un flacon. Ils se précipitèrent tous vers Alice au moment où elle parut, mais elle s'enfuit à toutes jambes et elle se trouva bientôt en sécurité au sein d'une épaisse forêt. « La première chose que j'ai à faire, » se dit Alice en errant à travers la forêt, « c'est de reprendre ma taille normale. La seconde, c'est de trouver le chemin qui mène à cet adorable jardin. Je pense qu'il y a lieu de s'en tenir à ce plan. » Cela avait l'air d'être un plan excellent, en effet, et à la fois simple et précis. La seule difficulté, c'est qu'elle n'avait pas la moindre idée quant à la manière de le mettre à exécution. Et tandis qu'elle scrutait avec inquiétude l'épaisseur des futaies, un petit aboiement sec, retentissant juste au-dessus de sa tête, lui fit vivement lever les yeux. Un énorme toutou abaissait vers elle le regard de ses grands yeux ronds et lui tendait timidement une patte avec laquelle il essayait de la toucher. « Pauvre petite bête !» dit Alice d'une voix cajoleuse, en faisant un gros effort pour essayer de le siffler. Mais elle ne cessait d'être épouvantée à la pensée qu'il pourrait avoir faim, auquel cas il était très probable qu'il allait la dévorer en dépit de toutes ses cajoleries. Sans trop savoir ce qu'elle faisait, elle ramassa un petit bout de baguette et le lui tendit. Sur quoi le petit chien sauta en l'air, des quatre pattes à la fois, avec un jappement de plaisir, et se précipita sur la baguette qu'il fit mine de vouloir mettre en pièces. Alors Alice se jeta derrière un grand chardon pour ne pas être piétinée. Mais au moment où elle reparaissait de l'autre côté du chardon, le petit chien se précipita de nouveau sur la baguette et, dans sa hâte à s'en emparer, fit une involontaire culbute. Alors Alice, qui avait l'impression de jouer avec un cheval de labour et s'attendait à tout moment à être piétinée par l'animal, s'esquiva de rechef derrière le chardon. Sur quoi le chiot entreprit une série de brefs assauts contre la baguette, effectuant chaque fois, en courant, plus de pas en arrière qu'il ne venait d'en faire en avant, et ne cessant de pousser un rauque aboiement jusqu'à ce qu'enfin il alla, haletant, la langue pendante et ses grands yeux mi-clos s'asseoir à une distance respectable d'Alice. Il parut à Alice que c'était le moment ou jamais de prendre la fuite. Elle partit donc sans plus attendre et courut à perdre haleine jusqu'à ce que l'aboiement du chiot ne s'entendît plus que très faiblement dans le lointain. « Et pourtant, hein, quel gentil petit toutou c'était !» dit Alice en s'appuyant pour se reposer contre un bouton d'or et en s'éventant avec une de ses feuilles. « J'aurais bien aimé lui apprendre des tours si... Bah, si seulement j'avais eu la taille qu'il fallait pour cela. Ah, sapristi ! J'avais presque oublié que j'allais devoir redevenir grande. Voyons, comment faire ? Je suppose qu'il me faut manger ou boire quelque chose, mais... » La grande question, sans nul doute, c'était « Quoi donc ?» Alice parcourut du regard les fleurs et les brins d'herbe qui l'entouraient, sans rien voir qui eût l'air d'être la chose qu'il fallait manger ou boire, compte tenu des circonstances. Un grand champignon, à peu près de sa taille, surgissait du sol, non loin d'elle. Quand elle eut regardé sa face inférieure, ses côtés et sa face postérieure, l'idée lui vint de regarder aussi ce qu'il y avait sur sa partie supérieure. Elle se haussa sur la pointe des pieds et jeta un coup d'œil par-dessus le bord du champignon. Son regard rencontra immédiatement celui d'un gros ver à soie bleu qui était assis au sommet du cryptogame, les bras croisés, en train de fumer paisiblement un long hookah, sans prêter la moindre attention à Alice ou à quiconque.
C'était Solo Plume, une émission réalisée par Philippe Fest.